Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Toujours dans nos lectures en liberté et toujours avec le texte de Mélis de Kerangal à ce stade de la nuit. À ce stade de la nuit, je me dis parfois qu'écrire, c'est instaurer un paysage. Les îles, et plus encore les îles désertes, sont pour cela des matériaux de haute volée. Leur statut géologique amorçant déjà une écriture, portant un récit. Essaimées sur la mer, les îles surgissent comme des creusets à fiction, ou des aimants dispersés sur l'imaginaire. Elles émergent soudain, forme finie au milieu de l'infini, forme dont on peut saisir les contours et que l'on peut tenir dans un seul geste, comme on tient un caillou dans son poing, comme on cadre une image dans l'objectif de l'appareil photo. C'est un espace clair qui impose ses contours, créant aussitôt un dedans et un dehors. Les îles sont comme des idées. Désertes, elles fascinent, opèrent comme des réserves, captent des histoires et abritent les hommes depuis la création du premier poème. Hébergent les évadés, les meurtriers, les généraux mégalomanes, les capitaines visionnaires, les acteurs misanthropes et les milliardaires naturistes. Piège les malades en quarantaine, les enfants rebelles, les bagnards et les réfractaires de toutes sortes, les peintres hallucinés, les reines mélancoliques et tous ceux que la société renvoie à la mer. Hétérotopie, elles sont des espaces différents. Ces autres lieux, faits d'une espèce de contestation à la fois mythique et réelle de l'espace où nous vivons, écrit Michel Foucault. On y échoue par le chant des sirènes. À l'issue d'une tempête qui aura éclaté la coque du navire après s'être évadé d'un bâtiment ennemi où l'on était tenu au fer dans la soute, après que le paquebot a sombré, torpillé par un sous-marin allemand, ou qu'il a échoué lors d'une manœuvre inattentive. Le vendredi 13 janvier 2012, le Costa Concordia se couche devant l'île du Giglio. On raconte que le capitaine flirtait. Après avoir plongé depuis un voilier pour suivre un poisson multicolore qui aurait fui vers les coraux, après avoir perdu son cap par hasard, on y achoppe, après avoir été embarqué de force avec d'autres mêmement terrorisés, dépouillés, violés, battus, soumis, bousculés, le canon d'une mitraillette rouillée balayant le fond d'un chalutier beaucoup trop petit pour cette charge humaine et qui jamais ne parviendra au port. On aura nagé pendant des heures, flotté parfois plusieurs jours, accroché à une poutre ou finalement lâché prise. Et d'épuisement, confié son corps à la vague. On aura gémi sur le dos, les yeux clos et les vêtements déchirés, ou bien nus, comme au premier jour, et inconscient de l'être jusqu'à ce qu'une bergère passe par là, décidant sur le champ de pratiquer l'hospitalité, jusqu'à ce qu'une reine ouvre sa couche. Plus tard, on s'y réveille, on y survit. On est comme dans un rêve. Parfois, on y recrée le monde, le feu et la forge, la chasse et la cueillette. On y repense la politique, le régime de pouvoir et de propriété, on y recense tout ce qui pousse, on identifie on classe. Et parfois même, on dessine avec des pigments naturels dilués dans une calebasse. On est seul, on pleure et on se branle un peu. On rencontre parfois une autre créature humaine, un monstre, des êtres anthropophages, des indiens et des perroquets qui chantent la barcarolle. Un jour, un flash, et l'on se souvient d'une carte au trésor vue dans une autre vie. La vie continentale. On la reconstitue. On voudrait faire fortune sans plus savoir pourquoi. On pense à sa femme, à son père, à son fils. On s'obsède d'un amant parti en mer. On s'appelle par exemple Ulysse, Jim Hawkins et Long John Silver, Robinson Crusoe, Vendredi, Sarah Woodruff, Theodora Down. Et il arrive aussi qu'on se nomme Calypso, Napoléon, Capitaine Nemo, Edmond Dantès, Marlon Brando, Adèle H. ou Antonia. Soudain, une voix comme une boule de feu affole la cuisine. Elle est archaïque et déplacée. Vergogna, vergogna! Elle demande au monde entier de venir voir. De venir voir ce qui se passe ici, à Lampedusa. Pile à cet instant, j'ai décidé de quitter la pièce. À ce stade de la nuit, la map monde chauffe doucement dans la chambre. Une ampoule de faible voltage l'éclaire de l'intérieur, analogue au noyau interne qui concentre l'énergie du feu sous les différents manteaux de la croûte terrestre. Je me suis approché. C'est une sphère de verre recouverte d'une fine couche de papier saturée de signes, de formes et de couleurs. Un carroyage de lignes tracées à la pointe sèche y tisse des repères. Des centaines de noms l'animent, s'y chevauchent, majuscules ou italiques cursives. Un codage typographique étalonnant leur importance et désignant leur emboîtement possible. Continent, océan, pays, mer, fleuve, capitale, chaîne de montagnes et sommet célèbre, désert, ville. Des noms parfois si longs, si étirés, que la première lettre migre des centaines de kilomètres de la dernière. De Paris, qu'il a ciblé illico, mon regard a dévalé vers le sud par ricochet, touchant successivement Méditerranée, Naples, Etna, Sicile, après quoi il a freiné sur un espace bleu, translucide, a balisé la zone, sa forme irrégulière, ses contours de flaques, et je me suis penché un peu plus. Me suis penché afin de voir si les éponges dorées que l'on pêche dans la zone tapissaient le fond de la mer, si les corps des plongeurs se déformaient sous la surface de l'eau. J'ai localisé un point microscopique, une pastille indifférente au continent, dont j'ai déchiffré les 9 lettres pâles, ténues. Lampedusa. C'est l'un des points les plus méridionaux de l'Europe, à même latitude que Chypre et Malte, ou presque. J'ai voulu voir si l'île était plus proche de la Tunisie ou de la Sicile, à quoi l'on rattache l'archipel des Pélages auquel elle appartient. Lampedusa, Linosa et Lampione. Trio de sœurs dispersées et manière de calculer les distances. J'ai placé le pouce et l'index en compas sur le globe, mon pouce posé à la verticale et prenant appui sur Lampedusa. mais les bouts de mes doigts occupaient grossièrement la surface et j'ai fini par me brûler les pulpes. Alors j'ai fait un pas en arrière pour situer l'île, établir sa position dans l'espace, sans la lâcher des yeux. Elle était si petite. Un seul clignement de paupières et hop, elle aurait disparu, effacée, engloutie. Et j'ai vérifié ce qui est visible à l'œil nu. Lampedusa est seule au monde. La nuit avance. Je suis maintenant rivé à l'île de Lampedusa, comme on s'obsède d'une poussière sur une feuille vierge. J'ai le sentiment qu'elle existe comme un lieu dans un non-lieu, émergé caillou inaltérable contre l'espace, liquide, terre précisée contre la mer floue où s'abolit le temps et la topographie. Il fallut longtemps en appeler au ciel pour déterminer une route, un alignement d'étoiles signant une direction, toponyme imprimé au sein d'une zone vierge, sans inscription autre que le sillage des bateaux, la crête blanche des vagues quand ça moutonne, les empreintes d'oiseaux, pattes, bec, ailes, quand ils éraflent la surface pour choper un poisson, et tout ce que le ciel reflète par beau temps quand la mer est d'huile, étale comme un miroir, nuages, avions, escadrilles de mouettes. Tout se passe comme si en Lampedusa, minuscule et ramassée, s'exprimait une résistance à l'indétermination qui la cerne. Mais la mer n'est pas un non-lieu, pas plus qu'elle est un espace indéterminé, une continuité fluide. C'est une chose que tu devrais savoir, non ? Aurait dit mon père, moqueur ou agacé. En elle coexistent des zones diverses, de l'estran familier au gouffre de l'inconnu. Grève, bande des rouleaux, mer côtière, mer libre et grand large. En elle cohabitent différents espaces régis par le droit maritime. Mer territoriale, zone continue, zone économique exclusive, plateaux continentaux, haute mer. Elle est aussi traversée de traces en pointillés, gras ou maigres, courants océaniques de surface, provoqués par les vents ou déplacements en profondeur, activités selon la température, la densité, la salinité de la mer, mouvements qui tous reconstruisent une topographie. Elle aussi est tapissée de grottes, relevées de volcans, balisées de hauts fonds et ponctuées de fosses sous-marines. Elle aussi est parcouru de voies, rails de navigation ou autoroutes maritimes sur quoi trafiquent des flux de vrac secs et liquides, pétrole brut, produits pétroliers, gaz naturel liquéfié, minerai de fer, charbon, céréales, sur quoi transitent les marins et les autres, ouvriers de la mer sur cargo battant pavillon panaméen, passagers de croisière musicale sur paquebot à étage, plaisanciers en embardé sabbatique, fondus de la course au large, sur quoi migrent les hommes depuis que la mer existe ? Elle aussi ouvre de nouvelles routes à mesure que s'inventent de nouveaux trafics. Qu'augmentent les échanges ? Que naissent les chantiers ? À mesure que s'intensifie la violence, que s'amplifie la pauvreté, que se répand la guerre, elle aussi est habitée d'épaves peuplées de cadavres hantés de fantômes.
There's a place, so I've been told, where every street is paved with gold, and it's just across the borderline. When it's time to take your turn, there's a lesson that you must learn. You can lose more than you ever thought you'd find. And when you reach the broken promised land, and all your dreams slip through your hands, and you know it's too late to change your mind. Because you paid the price to come so far, just to wind up where you are, and you're still just across the borderline.
Denis Flageol.
Et nous voici de retour au texte de Mélisse de Kerangal à ce stade de la nuit, après ce moment musical. Mon cœur accélère. Localisant Tripoli sur la côte libyenne, je trace un chemin vers Lampedusa. 13 000 migrants et demandeurs d'asile y ont abordé cette année. J'aperçois Malte à tribord et je me souviens subitement qu'un tiers des navires de commerce naviguant sur les mers du globe battent pavillon maltais. La zone est dangereuse. À ce stade de la nuit, la radio délaye sa bande sonore et les voix se sont tues. Je suis de retour dans la cuisine où je tâtonne en manque de données. Le flou du nombre des victimes est une violence révoltante quand le désir de précision, à l'inverse, signe une éthique de l'attention. L'approximation fait voir la paresse, désigne vaguement l'innombrable, la multitude, la foule, les pauvres, tout ce qui grouille et qui a faim, tout ce qui fuit sa terre. Je module le bouton sur la radio afin de glisser d'une station à une autre et d'en apprendre davantage. Autour de 350, plus de 350, au moins 350. On n'aura pas encore repêché tous les corps, on attend de savoir. Et sans doute que dénombrer ceux qui ont survécu, 166, ne permet pas encore de déterminer le nombre exact de ceux qui se trouvaient sur le bateau. Sans doute qu'il n'est pas de soustraction possible, puisqu'il n'est pas de document, aucune écriture attestant le nombre de passagers embarqués à Tripoli, attestant leur nom et leur identité. Au fond, il s'agit bien pour l'heure de la disparition d'un nombre indéterminé d'anonymes. Heure nocturne. Lumière qui perle au bout des cils, fatigue extralucide, vitesse de la pensée. L'événement cristallise doucement. Il instaure une scène qui se précise, tranchée, épouvantablement nette. J'ai distingué le sillage du rafiot sur la mer, sa trace mouvante à la surface de l'eau, l'incise, blanche puis pâle, dont la forme désignait une direction et une vitesse. J'ai vu l'embarcation, un bateau de travail badigeonné de bleu et de jaune, un calfatage sommaire, les pièces de métal piquées de rouille, les vitres brouillées de sel et de projections séchées. J'ai reconnu une cargaison humaine dans ce volume sombre, grelottant. Aube sur la mer en octobre, humidité qui perle, vêtements imbibés de poisses marines tièdes et glacées. Dans cette masse indistincte, enflée dans les coursives étroites sur les ponts, dans ce compactage de corps gris où seules bougeaient les têtes, elles dodelinaient, certains dormant debout, d'autres inclinant le menton sur la poitrine, sur l'épaule consentante d'un voisin. J'ai distingué des yeux, légèrement globuleux, le blanc glaireux de l'œuf bleuté, la pupille dilatée. Et à partir d'eux, j'ai recomposé des visages possibles, des visages aux bouches fermées, la terreur, la fatigue, l'abrutissement. J'ai écouté le bruit des moteurs, ce bourdonnement régulier mélangé à celui de la mer, fluide contre l'étrave, à celui de la radio du bord. J'ai senti l'essence, des auréoles noires et scintillantes qui prismaient les couleurs de l'arc-en-ciel. Soudain, tout s'est déréglé. La rumeur s'est disloquée. Un crachotement, un étouffement, et quelques centaines de mètres plus loin, le bateau n'avançait plus. Flottait, porté par le flux de la mer, par l'inertie des eaux, il dérivait. J'ai contenu le chalutier dans mon regard jusqu'à ce que les remous s'atténuent à la poupe, se dissolvent progressivement dans le bleu de la mer, l'azur vertical, jusqu'à ce que la fin du mouvement signe la fin de tout. Une fumée, un nuage grisâtre, est monté dans le ciel comme un signal indien, un code, un langage, et peu à peu a tout effacé, a gommé l'espace où stagnait le bateau. L'incendie a éclaté tandis que des grains noirs commençaient à ponctuer la mer, pagaille de plouf, cris, désordre. Quand c'est lent un naufrage, c'est lent, un bateau qui coule, et dans le même temps incroyablement rapide. Soudain, il passe sous la surface des eaux, comme le soleil se couche, il disparaît. C'est là toute la singularité de l'événement, sa morbidité extrême. J'ai pensé que les passagers avaient dû attendre, espérer des secours. Certains sachant que le droit de la mer impose de venir en aide aux bateaux en détresse, quand d'autres, au contraire, auraient dû s'affoler, informés des dernières dispositions des États en lutte contre l'immigration illégale, avertis qu'en ce qui les concerne, le droit n'existait plus. Justement, ils étaient hors la loi. Des marins venus les sauver avaient été sanctionnés par les autorités inflexibles, soucieuses de la légalité et les pieds au sec. Et sans doute que d'autres se demandaient jusqu'où on les laisserait se noyer. J'ai pensé enfin que la plupart des passagers ne devaient pas savoir nager, ayant vu la mer 2 jours auparavant pour la première fois. Certains s'en étaient sortis, c'est vrai. Plus vigoureux que d'autres, en meilleure santé, ils avaient survécu. Et ceux de l'île, isolés et pauvres eux-mêmes, les avaient recueillis, une couverture sur les épaules, un abri, un repas. Ils avaient hébergé ces étrangers, plus pauvres que pauvres, ces êtres qui n'avaient plus rien et ne pouvaient plus prononcer leur nom. Ils les avaient relevés et l'humanité entière avec eux. Hospitalité. À ce stade de la nuit, le jour perce la fenêtre et décolore le ciel dans la rue. La cuisine s'éclaire. J'ai su que Lampedusa était le nom d'une île, il y a une 20aine d'années, lors des premières arrivées de migrants dans son port et des premiers naufrages dans la zone. À l'époque, ce nom était pour moi celui de Burt Lancaster, celui d'un prince, celui d'un monde qui sombre, celui d'un écrivain, celui du mois d'août, celui d'un enfant. Il feuilletait en désordre différentes couches de sens, activait des imaginaires disparates, instaurait des scènes discontinues, des écritures qui toutes tremblaient dans l'épaisseur de son spectre. Étrangement, le toponyme insulaire n'avait encore jamais recouvert le nom de fiction qui avait fini par sédimenter en moi. Ce nom de légende, ce nom de cinéma. Lampedusa, le guépard, Burt Lancaster. Mais ce matin du 3 octobre 2013, il s'est retourné comme un gant. Lampedusa, concentrant en lui seul la honte et la révolte, le chagrin, désignant désormais un état du monde, un tout autre récit. Voilà, nous avons terminé donc la lecture de ce court récit de Mélisse de Kerangal à ce stade de la nuit. Et dans la suite de nos lectures en liberté, je vous proposerai quelques passages du très beau roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Le guépard. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.